Bonsoir, c'est l'émission des Apatrides Anonymes du 25 février 2021, en direct toutes les deux semaines des studios de Choc à l'UQAM ou en balado sur choc.ca. Une heure complète et même peut-être un peu plus sur les phénomènes migratoires et frontaliers, la sécurité, beaucoup d'enjeux locaux, nationaux et internationaux, pas mal d'international cette semaine. Simon à l'animation, en compagnie des deux autres apatrides, Marie-Ève et Mathieu. Mathieu, tu nous as préparé un dossier Proche-Orient, Israël, Palestine, et tu vas aussi nous faire l'agenda antiraciste.
Exactement.
Ben, mon Dieu, en plein dans le mille. Et bonsoir. Toi, Marie-Ève, tu as un segment Méditerranée pour nous, donc beaucoup en lien avec des traversées en mer.
Traversées, opérations de sauvetage, refoulement. Voilà.
Sauvetage et refoulement, donc le deuxième annule le premier, toujours intéressant.
Puis elles sont en parallèle, mettons.
Ouais, c'est ça. On va te retrouver dans très rapidement pour un petit segment Nouvelles autochtones. On en a à chaque émission.
Entre autres, oui. Surtout crimineux au Canada, en fait.
Parfait. Donc, on te retrouve dans une petite minute. C'est l'émission des apatrides sur les ondes de choc.ca.
Bravo!
Merci. Ben, en fait, comme on dirait en cuisine, je te réserve pour dans une minute, parce que j'ai une petite nouvelle avant pour mettre la table. La Ville de Montréal votait cette semaine sur une motion des conseillers Juliana Fumagalli et Marvin Rotman pour que la Ville prenne position en faveur de la régularisation de toutes les personnes sans statut et que la Ville s'engage à faire pression sur le fédéral pour aller dans cette direction-là puisqu'il s'agit d'une compétence fédérale. C'est une motion non partisane qui est assez détaillée quand on la lit et qui est présentée autant comme un enjeu sanitaire qu'humanitaire. Mais on insiste beaucoup sur les aspects justice sociale dans le texte de la motion. La motion a finalement été adoptée par le conseil municipal de Montréal, qui s'est tenu, je pense, en 4 périodes de 3 heures sur 2 jours. En Zoom, je pense, je sais pas si c'est plus long ou moins long que d'habitude. Je rappelle toutefois que c'est pas exactement le même sujet, mais que la suspension des expulsions est toujours en vigueur au Québec. Donc, il n'y a pas d'expulsion actuellement en raison de la pandémie. Par contre, les expulsions ont déjà repris dans plusieurs provinces. Donc, on peut présumer que ça va reprendre bientôt à partir du Québec. Sinon, on apprenait via SSF, Solidarité sans frontières, qu'il y a toujours des détenus à la prison pour migrants de Laval. Entre 12 et 15 personnes migrantes, on n'a pas le chiffre exact. Pas de visite depuis le 16 mars dernier, donc presque un an.
C'est long.
C'est inhumain, même, je dirais, dans des conditions variables d'isolement, puisqu'il y a 4 détenus testés positifs à la COVID actuellement. Nouvelle grève de la faim entamée par certains détenus contre les conditions d'hygiène, le confinement solitaire qui est très dur psychologiquement, l'accès du soutien légal pratiquement inexistant. Pas de visite, comme je disais, conditions d'hygiène douteuses. Il y avait une première grève de la faim printemps-été 2020 à peu près qui avait mené à la libération de tout le monde, si je me rappelle bien. Donc là, on assiste à une deuxième vague de grève de la faim. Ça n'a pas du tout été médiatisé, donc je pense que ça valait la peine d'en glisser un mot. Les informations auxquelles on a accès pour l'instant sont très limitées à cause des conditions dont je parlais, des conditions d'isolement imposées. On va essayer d'en savoir plus et on vous fera un suivi dans les prochaines semaines. Je rappelle qu'on est aux apatrides anonymes sur choc.ca. Marie-Ève, on reste au Québec, au Canada, pour des actualités en lien avec les communautés autochtones.
Entre autres, oui. Alors que, hein, on le sait, Yann Lafrenière s'obstine à refuser d'aller de l'avant avec le projet de loi sur le principe de Joyce, là, à cause de l'emploi du fameux terme en RS. Et parce qu'il veut des actions et pas des grands principes. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais et que Benoît Charrette vient d'être nommé ministre de la lutte contre le racisme pas systémique.
Un demi-ministre parce qu'il s'occupe de l'environnement.
Oui, c'est ça. On sait pas trop comment est-ce qu'il va gérer ces deux dossiers-là.
Il y a une femme noire.
Oui.
Mais il est tellement dynamique. Il est tellement, tellement, tellement dynamique.
Il a réponse à tout. Mais Marie.
Bref, qu'il soit systémique ou pas, là, le racisme est non seulement bien présent au pays, mais les crimes haineux sont même en hausse. Ils ont augmenté de 7 % en 2019 selon Statistique Canada. Au cours de l'année, ça veut dire que ils ont dénombré, Statistique Canada ont dénombré 1946 crimes haineux rapportés par la police, ça, c'est à travers le pays. Mais selon Barbara Perry, qui est directrice du Centre sur la haine et l'extrémisme de l'Université Ontario Tech, et je cite, « En termes de nombre absolu, les chiffres ne montrent que la partie émergée de l'iceberg. » On estime habituellement qu'il y a pas plus de 25 ou 30 de la totalité des crimes haineux qui sont rapportés.
Donc, donc ce serait trois fois plus, là, genre, si on fait un calcul rapide. Là.
C'est ça. Et Hamilton, en Ontario, détient le titre de capitale des crimes haineux, où la police a rapporté 15,7 crimes. Je sais pas ce que le 15,7 vient faire, mais...
Ça doit être des estimations sur plusieurs périodes.
Donc, 15,7 crimes haineux pour 100 000 habitants.
Ah, c'est ça.
C'est donc de loin le taux le plus élevé au pays, surpassant ceux de Vancouver qui est à 8,2, Toronto 7,1, Montréal 5,4 et Calgary 5,2. Donc, c'est 92 crimes haineux en 2019 qui ont été répertoriés là, pour Hamilton, les deux tiers étant des graffitis. Barbara Perry s'attend à ce qu'il y ait une hausse substantielle du nombre de crimes haineux pour 2020 dans l'ensemble du pays aussi, étant donné le nombre d'incidents rapportés publiquement durant l'année. On pense par exemple à dès janvier, la communauté chinoise de la région de Toronto dénonçait là la stigmatisation et le racisme dont elle était victime. Il y a eu toutes les histoires aussi de nœuds coulants qui ont été retrouvés sur des chantiers de Toronto. En octobre, il y a le Conseil national des musulmans canadiens qui avait aussi dénoncé des menaces violentes proférées contre une mosquée de Toronto. Et puis pour Vancouver, c'est un des seuls endroits là où on a vraiment les chiffres pour 2020, puisque là je vous parlais des chiffres de 2019. Et pour Vancouver, le nombre de crimes haineux a doublé en 2020, selon un bilan qui a été publié ce mois-ci là par la police de la ville. Donc on est passé de 142 en 2019 à 280 en 2020. Et ceux commis spécifiquement envers les personnes d'origine asiatique ont bondi de plus de 700% durant la même période.
C'est fou quand même.
Ça veut dire que c'est passé là, de 12 en 2019 à 98. En 2020. Bon, quant à Toronto, là, la police prévoit publier les statistiques sur les crimes haineux en 2020 d'ici la fin du mois de mars. Puis pour ce qui est des données nationales, ça devrait être publié en juillet là, pour 2020. Donc, on a vu des exemples. Il y a bien sûr là, le petit racisme ordinaire ou les petites haines ordinaires là, qu'on
ben
pourrait
ça,
dire.
Il n'y a pas de plainte à la police, donc c'est difficile à quantifier.
Non,
là.
C'est ça. Tu sais, comme un cas qui a été...
Sur les réseaux sociaux,
c'est ça, c'est le cas d'un restaurant vietnamien de Saskatoon où les employés ont été la cible de propos racistes au début du mois. Il y a un client qui refusait de porter son masque, les a accusés sur un ton très agressif d'être responsable de la pandémie de COVID-19 et leur aurait crié de retourner en Chine. Mais il y a aussi le racisme violent.
Ça fait rire, Mathieu.
Des Vietnamiens retournent en Chine. Ouais, c'est historiquement, il y a des enjeux. Là.
Ouais. Genre, je porte pas mon masque, mais t'es responsable. En tout cas, bref, c'est pas grave.
Mais il y a aussi le racisme violent et meurtrier et dont les femmes autochtones sont trop souvent victimes. Je vais terminer donc ce segment-ci avec le dénouement de deux procès qui ont impliqué l'assassinat de femmes autochtones. D'abord, celui qui remonte à des faits qui datent de juin 2011, c'est le procès de Bradley Barton pour le meurtre de Cindy Gladue, à Edmonton. Donc là, la semaine dernière, là, 10 ans après que la jeune femme a été retrouvée morte dans une chambre d'hôtel, Bradley Barton a été finalement reconnu coupable d'homicide involontaire. Le verdict de culpabilité met fin au deuxième procès. C'était le deuxième procès dans ce cas-ci, qui avait d'abord été acquitté en 2015 de deux chefs d'accusation. Oreille sensible pour la suite, s'abstenir. Le déroulement et le résultat du premier procès de Bradley Barton avait généré des ondes de choc. Comme je disais, en 2015, il y a même les parties intimes du corps de la victime qui avaient été présentées comme preuve au jury. C'était du jamais vu, une décision qui avait été qualifiée avec raison de cruelle.
Qui avait été arrachée?
Je sais pas, mais c'est ça.
OK, continue.
Et puis, le deuxième procès, c'est celui de Braden Bushby, également reconnu d'homicide involontaire, cette fois contre Barbara Kentner, qui est membre de la Première Nation, Obidjoué de Wabigoon Lake, en Ontario. Petit rappel des faits, ça remonte à janvier 2017. Un autre brillant, Braden Bushby, avait lancé une boule d'attelage en métal depuis une voiture en marche sur Barbara Kettner, alors qu'elle se promenait avec sa sœur dans une zone résidentielle de Thunder Bay. Barbara Kettner est morte 6 mois plus tard à cause de blessures internes. Et même si l'homicide involontaire dont est accusé Braden Bushby est passé de la prison à vie, les avocats de la couronne ont plaidé pour une peine de 8 à 12 ans. Tandis que les avocats de M. Bushby ont plutôt suggéré une peine de 4 ans. On devrait savoir le verdict là, pour la peine le 4 mai.
Homicide involontaire, je comprends pas, il me semble, quand tu lances un projectile.
Ben, enfin, ce qu'il disait, c'était que l'avocat de la défense, la défense disait dans le cas de M. Bushby que c'était pas intentionnel qu'il voulait la tuer, genre.
Il voulait jouer ou faire peur ou voilà, quelque chose comme ça.
C'est cela. Et donc, je voudrais terminer en disant 2 choses. D'abord, souligner l'immense courage et la résilience dont ont fait preuve les proches, la famille et les amis de Cindy Gladue et Barbara Kettner dans cette terrible épreuve-là. Et deuxièmement, je voudrais adresser un gros, gros doigt d'honneur bien senti à ceux qui nient l'existence du racisme systémique, gouvernement de la CAQ et gérant d'estrade inclus.
Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. J'ai même l'impression que c'est majoritaire comme posture au Québec. Enfin, bref, ça sans compter toutes les femmes,
autochtones disparues,
dont
assassinées.
On n'a aucune idée. Il n'y a même pas de procès, il n'y a même pas d'enquête, bien souvent. Merci, Marie-Ève. Bon, on va poursuivre. Ça commence l'émission d'une
un peu, ouais, désolé, façon, de commencer
un peu
de façon
sombre.
Triste.
On va te retrouver plus tard dans l'émission pour des sujets complètement différents. On va déjà faire une pause musicale. Ça va nous permettre de digérer tout ça. On va écouter Frank Custo. Selon Mathieu, c'est le fils spirituel de Fred Fortin.
Je seconde.
OK, ben je tierce. Je veux pas me sentir trop seul. C'est un auteur, compositeur, interprète de Sherbrooke qui se classe lui-même dans le style folk punk. Peut-être folk sale, des fois on entend ça aussi. On va entendre la pièce « L'Oasis » de son album « Xenial Blues » paru en janvier dernier sur Slam Disc. Dans son Bandcamp, on peut lire « Conçu dans l'hilarité en août 2020 à Montréal ». On écoute Frank Custo sur choc.ca.
Vente fort dans le vieux nord aujourd'hui, c'est bizarre, les arbres s'énervent, on dirait mou, quand j'essaye d'arrêter de fumer. Il vente fort à Sherbrooke aujourd'hui, pis c'est rare, les arbres s'énervent, on dirait moins, quand je me pose des questions qui servent à rien. Comme par exemple, qu'est-ce qui arriverait si le pire se passait soudain, y'a une machine à popcorn. Les petits soucis se multiplient jusqu'à exploser en tempête. Pardonne-moi de t'avoir fait mal. Voudrais-tu qu'un jour on s'en parle? C'est ainsi je braille seul pour rien. Se vieillir, à moins que ce soit mes regrets qui essayent de fuir sans me le dire. Je souffrais, j'essayais d'être Bouddha. Pauvre petit gars, je comprenais rien. J'étais même pas digne de mes vieux disques de Nirvana. Toi, t'étais l'inertie sur mon chemin. J'avais besoin de me reposer. Je t'ai supplié de me faire du bien. J'étais plus un patient qu'un partenaire. C'est de fucker comme ça, pas besoin d'heures supplémentaires.
On entendait la pièce L'Oasis de Frank Cousteau aux Apatrides Anonymes. On va retrouver Mathieu dans deux minutes, juste après ces quelques brèves que j'ai glanées dans les infolettres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Premièrement, un chiffre qui a été publié récemment. 2020 représente l'année historiquement la plus basse depuis au moins 20 ans en ce qui concerne les réinstallations de réfugiés. Juste préciser, les réinstallations, ça concerne les personnes migrantes qui sont vues octroyer le statut officiel de réfugiés par l'agence onusienne et qui, en général, sont dans des camps de réfugiés ou des installations de transit en attendant d'être admis à un programme de réinstallation par un des pays participants. Les besoins annuels sont en millions, bien au-dessus de ce qui est fait normalement. Une année normale, c'est entre 100 000 et 200 000 réfugiés réinstallés, ce qui est déjà pas beaucoup en fonction des besoins. Ben, en 2020, il n'y a pas eu entre 100 000 et 200 000, il y a eu presque 23 000 réfugiés réinstallés dans le monde. Donc, c'est ridiculement bas. La COVID a le dos large, c'est l'excuse utilisée. La plupart des pays qui accueillent généralement les réinstallations sont restés complètement fermés en 2020, sauf pour les mois de janvier et février, évidemment. Le Haut Commissariat tient quand même à souligner qu'une vingtaine de pays ont maintenu une certaine cadence en faisant preuve d'initiative, de créativité, comme on dit beaucoup depuis le début de la pandémie.
Ils
ont réinventé les modalités pour accueillir tout en respectant les mesures sanitaires. Le Haut Commissariat souhaite que dans les années à venir, on fasse pas seulement que revenir au taux habituel, mais qu'on fasse un réel rattrapage. Une des situations actuelles précises qui préoccupe le plus le Haut-Commissariat, c'est toute la région du Sahel, principalement le Burkina Faso, le Tchad, le Mali et le Niger. Depuis environ 2015, des violences type groupe djihadiste principalement, des milliers de morts. Et depuis le début de 2021, on a atteint le chiffre de 2 millions de personnes déplacées dans cette région.
Ça doit être le record dans le monde, hein?
2 millions
pour le début de l'année?
Pour le début de l'année, oui. Historiquement, je ne crois pas, mais 2 millions, c'est énorme pour une seule et même région.
Là. Quelques mois, oui.
La moitié de ces 2 millions de personnes-là sont burkinabés et ont été forcés de fuir leur maison en 2020 seulement. Donc, il y a vraiment eu une explosion de déplacés du Burkina Faso l'année dernière. Donc, que ça aille mal partout dans la région, c'est vraiment autour du Burkina Faso qu'on s'inquiète le plus. On passe de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est, autre région qui préoccupe beaucoup les organisations internationales et les ONG. C'est le conflit au Tigré. On en a parlé quelques fois. Les médias en parlent un peu. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas entendu parler dans des gros médias. Mm-hmm. Donc, cette région d'Éthiopie où les violences ne se calment pas vraiment et où ça fait fuir les populations. Comme dans le cas du Sahel, on parle d'environ 2 millions de déplacés dans la région entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Il y avait 4 camps de réfugiés principaux, des camps massifs, à la fois en Éthiopie et en Érythrée, quelques camps de plus petite importance au Soudan. Mais en raison de l'intensité de la violence, l'aide humanitaire ne se rendait plus du tout depuis novembre dernier. Là, 2 des 4 camps principaux sont de nouveau accessibles. Les conditions sécuritaires le permettent enfin, mais c'est précaire. Mais en tout cas, bref, les vivres, les médicaments, l'eau potable et autres produits de première nécessité peuvent se rendre. Mais dans quel état sont les camps et surtout les gens, après des mois de survie alimentaire sur le mode débrouille, troc et mini-élevage de médecine artisanale? Donc, je vous à peine imaginer, mais tout de même, il y a un peu d'espoir actuellement. On est toujours sur choc.ca. On poursuit notre progression internationale vers l'Est en quittant l'Afrique avec Mathieu, vers le Proche-Orient.
Oui, vers le Nord-Est finalement, vers le Proche-Orient. Ben, Israël-Palestine principalement. J'ai 2 sujets à vous parler. Le premier, c'est la Cour pénale internationale qui a annoncé récemment qu'elle se déclare compétente pour juger des crimes de guerre perpétrés dans les territoires palestiniens. Mm-hmm. Donc, cette décision voulait avoir une enquête qui était déjà en préparation. On rappelle que l'autorité palestinienne est membre de la CPI depuis 2015 et qu'en décembre 2019, la procureure générale de la CPI, Fatou Ben Souda, avait demandé l'ouverture d'une enquête sur de possibles crimes de guerre dans les territoires occupés. Madame Ben Souda souhaite que la CPI prenne le relais après avec cette décision-là d'une enquête préliminaire de 5 ans à la suite de la guerre de 2014 dans la bande de Gaza. Notre ami Benjamin Netanyahou a qualifié la CPI, dont Israël n'est pas membre, on le souligne, d'organe politique et non pas d'une institution judiciaire.
Ben oui.
Selon lui, la CPI nuit au droit des démocraties à se défendre contre le terrorisme.
Mais il est tellement bon sur la vaccination, on va lui pardonner.
Simon, c'est mon deuxième sujet, franchement.
Il faudrait qu'on se parle après.
Oui, c'est correct, ça fait des bons liens. Et les États-Unis, qui ne sont pas membres non plus de la CPI, se sont dit sérieusement préoccupés par les tentatives de la CPI d'exercer une juridiction sur les militaires israéliens. Je cite un porte-parole. Nous avons toujours adopté la position selon laquelle la juridiction de la Cour devait être réservée aux pays qui sont membres ou qui s'y sont renvoyés par le Conseil de sécurité de l'ONU.
Donc, allez. L'opinion de ceux qui ne sont pas membres, on s'en fout.
Oui, puis les États-Unis ne vont pas se renvoyer eux-mêmes du Conseil de sécurité vers la CPI, on s'entend. Mmh. Et cette semaine, le 23 février, il y a deux jours, Justin Trudeau s'est entretenu au téléphone avec M. Netanyahou et M. Trudeau a réitéré son engagement à l'égard d'une solution à deux États relativement au conflit israélo-palestinien. Et je le cite, « Tant que les négociations en ce sens n'auront pas abouti, la position de longue date du Canada demeure la même, c'est-à-dire que le Canada ne reconnaît pas un État palestinien et par conséquent ne reconnaît pas son adhésion aux traités internationaux comme la Cour pénale internationale. »
Ah!
C'est gentil, hein, pour les Palestiniens. Deuxième sujet, Simon.
Oui, la vaccination en Israël.
Ben, en Israël, Palestine, la géopolitique du vaccin...
Je suis sûr que c'est égal dans les deux.
Oui, c'est... Simon, arrête de me couper, là. Ah, c'est, ben, c'est égal, oui. Donc, géopolitique du vaccin dans la région. Fin janvier, un article de l'agence Média Palestine qui commence en disant « L'exclusion par Israël de 5 millions de personnes de son programme de vaccination » contre la COVID continue de soulever des protestations. Des organisations ont contesté le fait que le pays manque à ses obligations en tant que puissance occupante en n'offrant pas de vaccin aux Palestiniens du territoire occupé.
Ah.
Par contre, les Palestiniens détenteurs de la souveraineté israélienne sont éligibles, comme le sont les résidents palestiniens de Jérusalem-Est et les colons juifs qui vivent en Cisjordanie. Eux, ils ont le droit au vaccin. Pour se justifier, les responsables israéliens ont mis en avant que les accords d'Oslo avaient supplanté le droit international, laissant l'autorité palestinienne responsable de la santé. Ce que des experts de l'ONU ont répondu, l'ultime responsabilité des services de santé demeure dans les mains de la puissance occupante jusqu'à la fin totale et complète de l'occupation.
Attends, j'ai juste une question avant que tu poursuives. Mais tu dis Palestiniens qui ont la citoyenneté israélienne peuvent recevoir...
qui habitent en Israël, parce qu'il y a un million...
Qui habitent en Israël, c'est ça, et non en territoire occupé.
Non, non, il n'y a pas de citoyen israélien en territoire occupé.
Parfait.
Voilà, c'est clair. Oui, tu as raison de le préciser. Jusqu'ici, près de 170 000 Palestiniens de Gaza et Cisjordanie ont contracté la COVID. Et il y a eu plus de 1 800 morts. Finalement, par contre, ça bouge au niveau des vaccins, vous l'avez peut-être vu dans les médias. L'autorité palestinienne a lancé au début du mois de février son programme de vaccination auprès de son personnel médical seulement après avoir reçu 2000 doses de vaccins de l'État hébreu sous la pression de l'ONU et des ONG. Aussi, l'autorité palestinienne a reçu 10 000 doses de vaccins de la Russie, Sputnik V, et voulant partager une partie avec ceux de la bande de Gaza, parce que l'autorité palestinienne est plus dans la Cisjordanie. Mais finalement, ça c'était il y a à peu près une semaine et demie, la ministre palestinienne de la Santé a affirmé qu'Israël avait bloqué l'entrée de 2000 doses de vaccin Sputnik qui devait être envoyé à Gaza. Finalement, ça a débloqué avec des pressions quelques jours plus tard. Des sources israéliennes ayant requis l'anonymat ont suggéré que le transfert des vaccins à Gaza n'était pas une simple mesure administrative, mais une décision politique qui pourrait être liée à des pourparlers en engageant Israël et le Hamas. On a su par ces sources-là qu'Israël réclame la libération de deux Israéliens qui seraient otages du Hamas et la remise des dépouilles de deux autres soldats tués pendant la guerre de Gaza en 2014 pour que les vaccins puissent se rendre. Hein? C'est la belle géopolitique.
Donc,
ça.
Le vaccin comme monnaie d'échange.
Exactement.
Ben oui, c'est ça. Puis après ça, ça va chicaner puis chialer sur le rôle supposément politique de la CPI. Tu sais.
Oui, oui. Ben voilà. Merci de faire le lien, Marie-Ève. Et pour finir sur les vaccins dans ce coin-là, cette semaine, 20 000 doses de vaccins Sputnik V sont arrivées à Gaza. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet envoi provient des Émirats arabes unis, c'est un don, et ça a été acheminé via la frontière de Rafah avec l'Égypte, parce qu'il y a une frontière aussi qu'on est obligé de passer par Israël.
Voyons, j'oublie le nom.
Ben, Rafah, c'est ça.
Oui,
c'est
merci.
Le point de Rafah, ouais. Et ces vaccins, donc ont été acheminés via la frontière, ça a été organisé par un dissident du mouvement palestinien Fatah, qui s'appelle Mohamed Dahlan, qui vit aux Émirats et qui est conseiller spécial du prince héritier des Émirats. Donc, on est toujours dans la géopolitique, là. Et l'acheminement des vaccins depuis les Émirats arabes unis et sous la responsabilité de ce monsieur dissident du Fatah intervient dans un contexte politique parce qu'il va y avoir des élections, les premières en 15 ans, dans les territoires palestiniens en mai. Pour finir, nouvelle qui date d'il y a deux jours, le titre « Des doses de vaccins inutilisées iront à d'autres pays et aux Palestiniens de la part d'Israël ». À la faveur d'une quantité limitée de vaccins inutilisés accumulés le mois dernier, Israël a décidé d'aider le personnel médical de l'autorité palestinienne et plusieurs pays en leur envoyant une quantité symbolique de vaccins.
ça veut dire c'est comme de l'homéopathie?
Ben, j'imagine qu'ils étaient, peut-être qu'ils ont sorti des frigos trop vite ou je sais pas.
T'sais. Ça veut dire quoi, symbolique?
Ben, c'est des petites quantités.
Ben oui, je sais bien, mais ça veut, on sait
j'ai pas les chiffres.
Quantité,
non, c'était pas confirmé.
Deux, trois doses.
Mais, juste, les médias israéliens ont cité notamment le Honduras comme pays susceptible de recevoir les doses de vaccins. Pourquoi? parce que cet État a annoncé récemment son intention de déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, comme les États-Unis. On est vraiment dans la géopolitique là,
dominable, dominable.
Et peut-être une nouvelle. J'ai le temps encore, Simon. J'ai un peu de temps. Une autre campagne de nos amis de Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient. Ça se passe ici, mais ça a un lien avec Israël. Le ministère des Transports du Canada a récemment approuvé un contrat de 36 millions de dollars pour la technologie des drones d'Elbit Systems, la plus grande entreprise d'armement israélienne. L'argent servira à acheter une version civile, entre guillemets, du drone militaire meurtrier d'Elbit, le même qui a été utilisé pour tuer des civils lors de l'assaut israélien sur Gaza, on en parle encore en 2014, qui avait fait 860 morts, dont 164 enfants. Elbit Systems, c'est vraiment des enfants de cœur. Ils produisent des munitions au phosphore blanc, une arme chimique, des bombes à fragmentation qui sont interdites, des balles pour les snipers et des composants de tanks et d'avions de chasse. Et comme on est toujours bon au Canada...
Ça, c'est pas en microdose, hein?
Non. C'est pas bloqué aux frontières non plus. Et Elbit Systems possède une filiale canadienne, une usine canadienne à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, qui produit des équipements et des technologies pour la défense et la surveillance israélienne. Donc, la campagne de CJPMO, c'est une campagne de courriel aux politiciens canadiens. Petite brève vraiment qui va te plaire, Simon. Le gouvernement israélien fait pression sur Facebook pour que le mot sioniste ou zioniste soit dans la catégorie des hate speech policy, dans la politique d'expression haineuse. Donc, sioniste soit aussi au même niveau que juif, finalement. Quand on traite quelqu'un de sioniste, c'est comme si on l'attaquait comme juif.
C'est le mot en S.
Oui, en anglais en Z, c'est ça exactement. Donc, toujours la même approche d'Israël et ses supporters de criminaliser toute dissidence contre l'État d'Israël.
Toute forme de critique, de même critique la plus constructive.
Et d'appui aux Palestiniens. Donc, voilà. Donc, j'aurai une petite dernière si jamais j'ai le temps.
Une toute petite.
OK, je laisse faire, je la garderai pour la prochaine fois. C'est sur un documentaire, mais j'en parlerai peut-être dans mon agenda tantôt. Donc, voilà, Simon, c'était sur Israël et Palestine. Quelques nouvelles fraîches.
Parfait, merci Mathieu. On revient dans un tout petit instant. Les apatrides anonymes sur choc.ca, toujours Simon à l'animation de cette émission du 25 février. Marie-Ève est à mes côtés, on la retrouve dans un petit instant. On reste dans l'international pour le restant de l'émission. Marie-Ève, toi, tu nous as préparé un gros dossier sur l'actualité migratoire dans la Méditerranée, donc tu vas nous en parler dans...
Quelques minutes, le temps que
je vous parle de ce dont je vous ai prévu. Je parle comme Trudeau aujourd'hui, ça va pas bien.
Pas grave.
J'ai quelques nouvelles européennes pour mettre la table. Marie-Ève est arrivée en face de moi, donc il faut que je parle de l'Europe. De bonnes nouvelles, profitez-en pendant que ça passe, ça durera pas. Premièrement, en Angleterre, on a décidé de vacciner absolument tout le monde, les 1,3 million de personnes sans statut incluses. Le droit de résidence ne sera pas vérifié et ce sera complètement gratuit. Deuxième bonne nouvelle, nos amis de Génération Identitaire, je dis nos amis...
Ben oui, mes amis préférés.
C'est pas du tout nos amis. Ben, il y a une procédure de dissolution qui a été lancée par notre préféré, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, contre l'organisation d'ultra-droite, comme on dit dans l'Hexagone. Génération Identitaire est connue pour ses positions extrêmes contre les migrants, pour des opérations notamment à Calais, ou encore dans les Alpes, les Pyrénées, où on attaque les migrants qui tentent de traverser la frontière française. Des opérations toujours très léchées, si je peux dire ça comme ça, très vidéoclip, avec uniforme pseudo-militaire, de la haute technologie, des hélicoptères, la grosse affaire. C'est très 16e, agence de sécurité du 16e. Donc, j'embarquerai pas trop dans la mécanique judiciaire actuelle, ça reste du jargon très franco-français. Bref, Génération Identitaire a reçu un avis de dissolution le 13 février et avait à partir de là 10 jours pour répondre aux contradictoires. Ben voilà, c'est un pas pire moyen bâton dans les roues de l'extrême droite française qui va trouver les moyens de se reformer sous d'autres chapitres, sous d'autres noms. Mais en attendant, on va savourer la fin de Génération Identitaire. j'arrête pas de m'enfarger, qui font pas juste chier les personnes migrantes, mais aussi les Français musulmans ou racisés ou immigrants en général, les groupes qui viennent en aide aux minorités culturelles, les queers, les antifascistes. Ben oui, on va célébrer ça en fin de semaine, tu sais, avec un pastis. Marie-Ève, on reste dans la même grande région, en Méditerranée?
Oui, oui, oui. Ben, ça faisait longtemps qu'on vous en avait pas parlé, justement, des opérations de sauvetage en Méditerranée, parce que, en fait, la plupart des bateaux étaient bloqués dans les ports italiens et espagnols par les autorités de ces pays-là depuis plusieurs mois. Mm. Mais là, depuis la mi-janvier, les opérations ont pu progressivement recommencer. Ça fait que je vous fais un peu un topo de ce qui s'y déroule depuis les dernières semaines. On commence par l'Ocean Viking, le navire de l'ONG SOS Méditerranée, qui lui a effectué sa première mission de sauvetage le 21 janvier, après 5 mois de blocage par les autorités italiennes, principalement là, pour des travaux de mise en conformité, dont l'ajout de radeaux de survie puis de combinaison d'immersion supplémentaire. Lors de cette opération-là, l'équipage a secouru environ 120 personnes, dont plusieurs enfants et un bébé d'un mois, qui se trouvaient tout le monde là, dans un canot pneumatique en détresse et dangereusement surchargé au large de la Libye. Il y avait un seul autre navire, qui est l'Open Arms, qui était présent dans cette zone-là les semaines précédentes. L'équipage avait d'ailleurs porté secours début janvier à 265 personnes. Donc, à peine 4 jours plus tard, l'Ocean Viking a effectué encore 2 autres opérations dans cette même zone de recherche et de sauvetage libyenne qui portait le nombre des personnes rescapées là, à 370 en tout. Puis, début février, les opérations de sauvetage se sont poursuivies. L'Ocean Viking a débarqué cette fois-ci 422 personnes migrantes en Sicile, toujours recueillies au large de la Libye. À la mi-février, c'est l'Open Arms qui a, lui, débarqué 146 rescapés dans un port sicilien aussi. Les personnes secourues, elles, se trouvaient, elles aussi, encore une fois dans la zone libyenne et provenaient principalement là, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, donc Mali, Côte d'Ivoire, Guinée, Nigérian, etc.
De moins en moins de personnes de Syrie, Irak ou...
Oui, oui, vraiment, vraiment moins. C'est surtout Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique australe, centrale, pardon. Puis on va voir tantôt aussi quand même du Maghreb, parce qu'il y a le bateau aussi espagnol, lui, Aita Mari, qui est de l'ONG Mediterraneo, qui navigue aussi dans la région, mais lui, il peut juste accueillir seul 120 personnes, donc sa capacité de sauvetage est beaucoup plus limitée. Par exemple, vendredi dernier, il avait procédé à 2 sauvetages dans la même journée. Lors du premier, il avait embarqué 102 personnes. Et donc, comme sa capacité était déjà presque maximale, l'équipage a dû donner des gilets de sauvetage puis de la nourriture aux 46 autres personnes du deuxième sauvetage qui, elles, ont décidé de partir vers Lampedusa. Des demandes ont d'ailleurs été formulées là par Mediterrano pour débarquer les passagers de l'Aita Mari à Lampedusa ou encore à Malte, qui abritent les ports les plus sûrs là et les plus proches du lieu de sauvetage. Mais l'ONG avait de fortes craintes que Lampedusa les accueille pas, parce que de nombreux débarquements avaient lieu dans les jours précédents, là, principalement, comme je disais, depuis la Tunisie, donc totalisant près de 240 personnes. Puis enfin, il y a le Sea-Watch 3 qui, lui, a pu reprendre la mer aussi en direction de la zone libyenne après une période totale de 7 mois de blocage entre l'Italie là, et l'Espagne, là, 5 mois... en Italie, puis après ça, un autre 2 mois en Espagne. Puis là, il y a un nouveau navire humanitaire du collectif italien méditerranéen qui devrait normalement leur rejoindre la zone de recherche et de sauvetage libyenne dans les prochaines semaines. C'est le Mare Jonio 2, qui, lui, va pouvoir accueillir jusqu'à 1000 personnes, puis va être en plus équipé d'un hôpital à bord. Fait que c'est un des premiers bateaux là, de
ce genre. C'est très différent de ce qui existe jusqu'à maintenant. C'est vraiment beaucoup plus gros.
Ça. Ouais. Je terminerai ce petit bloc-là en revenant un petit peu sur Lampedusa, parce que la semaine dernière, il y a un migrant et 22 autres personnes qui ont été portées disparues après le naufrage de leur embarcation au large de l'île. Il y a dans un communiqué, la marine tunisienne, parce que c'est de là que provenaient les naufragés, la marine tunisienne a précisé avoir secouru 25 migrants lors d'opérations de secours, mais le mauvais temps a interrompu les recherches. Donc, c'était 48 personnes qui se trouvaient à bord au moment du départ. Et depuis le début de l'année, ben 159 migrants ont perdu la vie en Méditerranée, selon le bilan établi par l'OIM, qui est l'Organisation internationale des migrations.
Nos amis.
Tout le monde est nos amis. Merci, Marie-Ève.
Ça me fait plaisir.
Ben oui, c'est fun d'avoir un bilan parce que ça change tout le temps. Les routes changent.
Mais ça a repris de plus belle. En tout cas, c'est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités dans la Méditerranée.
Libye, ça avait ralenti quand même pas mal avec toutes les restrictions, toutes les surveillances.
Je vais vous parler dans le deuxième bloc de plus des opérations libyennes, en fait, d'interception d'embarcations.
Parfait. Ben merci pour ce premier de deux segments d'actualité méditerranéenne. On a une chanson qui allait juste trop bien avec ce dont tu nous parles en ce moment. On va l'écouter maintenant et te retrouver dans cinq minutes pour la suite. C'est pas une nouveauté, ça date de 2014. C'est italien, de la région des Pouilles dans le Salento. Pour situer les gens, le Salento, c'est le talon de la botte italienne dans le sud. C'est un style musical local qu'on appelle la pizzica et c'est en italien mélangé à des langues locales de la région. Le texte parle de migration, de traversée en mer, ça parle de mort, ça nous vient du groupe Canzoniere Grecanico Salentino, groupe des années 70, toujours actif, 17 albums derrière la cravate, la pièce s'appelle Solo Andata, qu'on peut traduire par Aller simple, magnifique clip qui accompagne cette pièce, dont certains avec les paroles sous-titrées en anglais pour mieux apprécier, je vous invite à aller voir ça sur votre plateforme préférée. Je répète, l'artiste et la pièce Solo Andata du groupe Canzoniere Grecanico Salentino sur choc.ca. Marie-Ève est de retour avec nous tout de suite après.
Siamo gli innumerevoli, raddoppia ogni casella di scacchiera, lastrichiamo di corpi il vostro mare per camminarci sopra.
Non potete contarci, se contati aumentiamo, figli dell'orizzonte che ci rovescia a sacco.
Nessuna polizia può farci prepotenza più di quanto già siamo stati offesi. Faremo i servi, figli che non fate le nostre vite, i vostri libri di avventura.
Portiamo Mero e Dante, il cieco e il pellegrino,
l'odore che perdeste, l'uguaglianza che avete sottomesso.
Qualunque distanza arriveremo a milioni di passi, noi siamo i piedi e vi reggiamo il peso, spaliamo neve, pettiniamo prati,
battiamo tappeti, raccogliamo il pomodoro e l'insulto, noi siamo i piedi e conosciamo il suolo passo a passo.
Noi siamo il rosso e il nero della terra, un oltremare di sandali sfondati, il polline
uscito e ritorno.
Toujours les apatrides anonymes sur choc.ca. On retrouve à nouveau Marie-Ève pour la deuxième partie de ton bloc Méditerranée.
Exactement. Ben c'est ça, comme je vous disais, là, vous avez pu constater que dans mon premier bloc, qu'il y a pas mal d'actions là, dans la zone de recherche et de sauvetage libyenne. C'est le nom officiel de cette zone. Mm-hmm. Et les gardes-côtes du pays continuent vraiment d'intercepter plusieurs embarcations. Juste pour vous donner une idée des chiffres, en une seule semaine, au début du mois de février, il y a plus de 1500 migrants qui ont été ramenés en Libye alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe par la mer. Puis pour une seule journée, celle du 10 février, par exemple, 240 migrants africains qui ont été secourus au large de Qom, qui est une ville portuaire située à peu près à 120 km à l'est de Tripoli. Donc, évidemment, quand des migrants sont interceptés au large des côtes libyennes, ben ils refusent de revenir en Libye, disons. Ils retournent pas là de leur plein gré.
Ben non.
Parce qu'ils savent qu'ils vont s'en aller en détention. Donc, ce qu'ils espèrent, ce que les migrants espèrent, c'est de voir arriver un navire effrété par une ONG d'un autre pays, tu sais.
Un navire effrayé, t'as dit?
Affrété d'un autre pays. Les agences de l'ONU puis les ONG dénoncent régulièrement le renvoi en Libye de migrants interceptés en mer, étant donné là, la situation chaotique au pays, puis le fait que les conditions sont vraiment déplorables dans les centres de détention. Mais malgré les violences là, persistantes en Libye depuis la chute en 2011 du régime d'un autre de nos amis défunts, Kadhafi.
On a-tu des amis? Hein?
Le pays reste quand même un point important de transit pour les migrants qui fuient l'instabilité dans d'autres régions d'Afrique, du Moyen-Orient, comme on l'a dit, mais aussi c'est ça, d'Afrique et du Moyen-Orient. L'OIM rappelle que en vertu du droit maritime international, la Libye peut pas être considéré comme un port sûr pour débarquer des naufragés. D'ailleurs, il y a 5 Érythréens qui portent plainte contre l'État italien.
Ah bon?
Ils accusent les autorités maritimes italiennes de les avoir interceptés dans les eaux internationales. Ça s'était passé le 2 juillet 2018. Et de les avoir ramenés illégalement en Libye plutôt que de les conduire en Italie.
Ce qu'on appelle, on en parlait des refoulements sommaires.
Oui, c'est ça, ou les pushbacks, comme tu
oui,
disais.
Oui, exactement, c'est ça.
Donc, ces 5 Érythréens-là sont soutenus par l'Association italienne d'études juridiques sur l'immigration et aussi par Amnesty International Italie. Ils accusent plus précisément le navire, en fait, le Lasso 29, qui les a interceptés dans les eaux internationales puis de les avoir repoussés vers la Libye. Une fois qu'ils ont été arrêtés par les zones par les gardes-côtes libyens, ont été ramenés au port. Les 5 naufragés ont ensuite été enfermés en Libye, exposés à des mois de détention arbitraire, de la violence, de la torture. Les plaignants dénoncent aussi le non-respect du droit d'asile. Rappelons aussi que faut rappeler, c'est utile de le savoir, qu'il y a un accord italo-libyen qui existe depuis 2017 qui autorise en fait la marine libyenne à effectuer en toute légalité des opérations de sauvetage en mer Méditerranée, mais évidemment cette entente-là entre les deux pays est largement dénoncée par les ONG. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, ces 4 dernières années, là, donc depuis que cet accord-là est entré en vigueur, il y a 50 000 migrants, dont 12 000 en 2020 seulement, qui ont été interceptés en mer par des gardes-côtes libyens et renvoyés de force en Libye. Ça, c'est selon les chiffres là, de Médecins sans frontières Italie, que je me permets d'ailleurs de citer. Coopérer avec les gardes-côtes libyens, sachant ce qu'ils font des migrants après les avoir interceptés, c'est pas une option. Tout ça rend l'Italie complice. C'est l'Italie qui est au premier plan dans l'équipement et la formation des Libyens pour qu'ils puissent intercepter des migrants et les envoyer en détention. C'est une honte que notre pays maintienne cet accord et qui fait de lui un allié des autorités libyennes.
Mais sans compter ce qui est officiel en Libye, mais ce qui est officieux aussi comme traite d'esclaves, dont on entend moins parler, mais le phénomène existe toujours, c'est clair.
Oui, non, c'est
mais
clair.
Mais surtout que c'est très payant pour la Libye. Là, c'est à peu près, je pense, c'est des dizaines de millions de dollars que l'Italie donne à la Libye en équipement, en formation, mais
oui,
surtout
c'est
en
ça,
argent.
C'est ça.
En argent, c'est des. Je pense qu'en 4 ans, c'est 70 millions. C'est vraiment des sommes astronomiques. Ouais. Là.
C'est ça pour servir un peu de pas de pare-choc, là, mais de.
De bonne sœur, là.
Ouais, voilà.
Ça, c'est ça. En compter, en fait, le fait que, bon, il y a les personnes qui, elles, se font mettre dans des camps de détention, mais il y en a aussi que ils partent un peu, ils se retrouvent un peu perdus dans la brume, là, dans les rues, tout ça, puis souvent, ben là, se retrouvent victimes, souvent, de trafic d'humains et tout ça, et ça non plus, c'est pas... C'est pas rose.
Puis je vais en rajouter une couche avant de poursuivre l'émission. Donc, merci énormément, Marie-Ève. On va rester un peu dans la même région. Ça fait un bout de temps que je voulais vous parler d'un rapport publié en décembre par Migre Europe, qui est un réseau d'associations et de chercheurs qui ont enquêté sur les rétentions de personnes migrantes en 2019. Le rapport conclut que peu importe le pays, qu'on soit sur la Méditerranée ou au centre de l'Europe, la rétention administrative des migrants se produit de plus en plus en dehors des cadres juridiques existants, des pratiques administratives établies ou même en dehors des infrastructures qui sont prévues à cet effet-là. Le titre du rapport, c'est « Exilé, enfermé et exclu ». C'est facile à trouver en ligne sur migreurope.org. Les chercheurs font un constat grave, soit que la rétention informelle, voire illégale, a énormément gagné en importance et est devenue partie intégrante du régime frontalier de l'Union européenne. Donc, rien de moins. Ce qui est normalement hors norme est en train de devenir la norme. On y parle beaucoup, oui, des conditions de détention et aussi de la manière dont les demandes d'asile sont traitées ou pas traitées. D'une nouvelle approche, c'est intéressant, qu'on appelle politique migratoire de dissuasion. Et on nous parle de toutes sortes de nouvelles mécaniques administratives, de petites astuces juridiques et même psychologiques pour permettre aux États de contourner leurs obligations légales en vertu des conventions internationales ou des règles de l'Union européenne. Les chercheurs s'inquiètent du pacte migratoire européen à venir. Ils pensent que beaucoup de nouvelles dispositions qui seront adoptées vont chercher à banaliser, à normaliser certaines de ces pratiques douteuses que Migre Europe décrit dans son rapport. Rapport qui portait sur les 4 pays suivants, Italie, Grèce, Espagne et Allemagne. Prochaine enquête de Migre Europe, les Balkans. Route migratoire toujours très fréquentée malgré les frontières de plus en plus opaques et les régimes très durs, très anti-migrants qui ont été élus dans cette région-là. Mathieu, dans le cadre de l'agenda, tu as des suggestions pour nous, toujours principalement en virtuel, j'imagine?
Oui, malheureusement, c'est beaucoup en virtuel. Bien, c'est à la fois des campagnes, des événements. Donc, premièrement, un appel aux dons organisé par Talamon Montréal pour en soutien aux efforts d'Omar Ben Ali pour se réunir avec sa famille après plus d'une décennie de lutte. On a déjà parlé de Monsieur Ben Ali. C'est un réfugié militant palestinien qui vit à Montréal. En juin 2017, il a lancé la campagne « Statut for Omar » ou « Statut pour Omar » pour régulariser son statut parce qu'il était dans un imbroglio. Vu qu'il est réfugié palestinien, il n'y a pas de pays de naissance, il n'y a pas de papier officiel de baptême. En tout cas, il s'est retrouvé de 10 ans dans la bureaucratie canadienne au niveau de l'immigration. Mmh. Et finalement, au printemps 2019, il a obtenu sa résidence permanente, donc une victoire menée de haute lutte. Il y avait eu beaucoup d'appui pour lui. Et là, actuellement, il est dans un processus de parrainage de sa famille, qui sont toujours en Palestine. Processus long et coûteux. Il n'y a pas d'argent, évidemment. Il vient d'avoir sa résidence. Donc, on parle de 15 000 $ de dépenses. Donc, pour les gens qui veulent aider, c'est la page Facebook de Talamon de Montréal.
Parfait.
Sinon, le 3 mars, un webinaire en ligne, évidemment, « Les droits humains au Yémen et le complexe militaro-industriel ». C'est organisé par Free City Radio, qui est sur Niperel Popolo, qui fait des événements en ligne. C'est Stéphane Christophe, entre autres, qui s'occupe de ça. Les invités, assez intéressants, Atia Falvazir, cofondatrice de Support Yémen, qui est une défenseure des droits humains et militante pour la justice pour les femmes au Yémen, qui a participé au soulèvement en 2011 au printemps arabe au Yémen. Il y a aussi Catherine Papas, qui est la nouvelle directrice d'Alternative Montréal, et Rachel Small, organisatrice communautaire basée à Toronto, impliquée dans worldbeyondwar.org. Et ça va parler, entre autres, évidemment, de la campagne de protestation contre les exportations d'armes canadiennes vers l'Arabie Saoudite dans le contexte de la guerre au Yémen. On parlait d'Israël tantôt, mais il y a aussi l'Arabie Saoudite, évidemment. Donc, ça, je répète, c'est le 3 mars à 11h du matin en ligne. Un autre webinaire intéressant, le 10 mars à 18h, organisé par Amnesty International, Féminisme et antiracisme, intersection.
Je voulais nommer un chroniqueur de Québécois, mais on va...
Non, garde-le pour ton intro, Simon. Puis, un petit extrait du descriptif. Par le passé et même au présent, le mouvement féministe occidental a été critiqué pour son exclusion des perspectives et réalités des femmes autochtones et racisées, tant dans la production des savoirs académiques que dans les sphères militantes. Donc, c'est ça un peu le sujet. Avec Mélissa Molène-Dupuis, qui est rendu à la Fondation David Suzuki. Amélia Zaza, qui est auteure, conférencière et formatrice, et Caroline Souffrant, doctorante en travail social. Donc, le 10 mars, 18h, donc, en ligne. Sinon, ben, on en a parlé un peu cette semaine. Il y a eu une conférence de presse, ben, c'était hier, une déclaration pour que toutes les sans-statut, sans-papiers au Canada soient vaccinés, s'ils le veulent. Mais il y a une pétition organisée par le Migrant Rights Network, qui a organisé la conférence de presse hier. Il a demandé au gouvernement fédéral et provinciaux de garantir un accès complet au vaccin contre le COVID. La COVID à toutes les personnes migrantes, peu importe leur statut. Vaccin gratuit, pas nécessaire de présenter une carte ou un numéro d'assurance maladie, qui soit accessible les vaccins et ne soit pas obligatoire, évidemment, comme pour le reste de la population. Et surtout, qu'aucune information personnelle ne soit recueillie ou partagée avec les services frontaliers.
Ben, un peu comme ce que Simon parlait tout à l'heure, que le Royaume-Uni... Oui, c'est ça que l'Angleterre a décidé de faire.
Mais ici, c'est pas le cas ni au Canada ni dans les provinces pour l'instant.
Toujours bien de voir sur le terrain, sur les sites de vaccination, comment ça se passe.
Oui, tout à fait. Mais c'est une campagne. Il y a eu une déclaration cette semaine. Il y a une pétition pour le grand public. C'est Migrants... Le Migrant Rights Network, c'est Vaccine for All ou Vaccin pour tous, si ça vous tente. Et je vais terminer avec quelques suggestions de documentaires, de films dans le cadre de la fin du mois de l'histoire des Noirs. On est toujours là pour l'instant.
On l'oublie des fois.
Ben, on en a parlé il y a deux semaines dans l'agenda, mais c'est sûr que ça va vite des fois dans l'actualité. Donc, il y a 7 documentaires qui sont suggérés sur un article de Radio-Canada que je vous recommande. Ça s'appelle l'article pour le trouver sur le web. C'est 7 documentaires portés par le regard des personnes noires à voir en ligne. Donc, 7 documentaires courts et moyens métrage et long métrage suggéré par Valérie Bas, qui est une Montréalaise, qui est scénariste, autrice et réalisatrice et programmatrice pour le Toronto Queer Film Festival, entre autres. Et elle suggère, je vous nommerai pas tous les films en détail, mais elle suggère entre autres La Cité des Autres de Justice Rutikara. Justice Rutikara est originaire du Rwanda. Et il a grandi dans le HLM Saint-Pie-X à Québec, qui est le plus gros complexe d'HLM à Québec. On parle souvent des habitations de jeunesse à Montréal, c'est un peu l'équivalent. Mm-hmm. Et il revient dans ce quartier pour donner la parole à d'autres personnes issues de l'immigration, ayant elles aussi passé leur enfance au milieu de ces tours. Et l'idée, c'est de montrer un autre visage de ce quartier-village et déconstruire l'image de ghetto qui lui est associée. Donc ça, c'est sur Tout.tv. Sinon, Trait d'union de Laura Kamugisha, c'est présenté dans le cadre d'une expo virtuelle organisée par la galerie VAV de l'Université Concordia. Ouvrir la voie d'Amandine Gay, c'est un film, ça, un petit classique, ça a l'air sorti en 2018. C'est une réalisatrice afro-féministe française, s'appelle Amandine Gay, qui tend le micro à 24 femmes afro-descendantes vivant en France et en Belgique. Ça a l'air que ça a fait le tour du monde pas mal, c'est sur Vimeo. Sinon, Ardents of Revolution de Philippe Pike, 35 ans d'histoire de la communauté noire queer de Toronto. Ça, c'est sur Cinéma Politica, si on veut le voir. Note d'espoir de Charles Officer, sur la revitalisation et l'embourgeoisement d'un quartier de Toronto. Je n'ai pas vu lequel. Okay. Et une communauté noire forcée de quitter son milieu de vie. Ça, c'est sur le site de l'ONF. Il y a Arme noire de Martine Chartrand, court-métrage d'animation, ça a l'air qui est très bien, sur une grand-mère qui raconte l'histoire de ses ancêtres à son petit-fils. Ça, c'est sur le site de l'ONF aussi. Et Sol de Valérie Bach, qui est celle qui suggère les films, et Tatiana Zinga Botao, qui a été fait dans le cadre d'une série sur la distanciation sociale en temps de pandémie. Et ce film-là, c'est sur le témoignage d'une soignante noire qui résiste au racisme dont fait preuve des patients blancs. Donc, sur le site de l'ONF, ça aussi.
C'est comme le principe de Joyce, mais inversé.
Oui, c'est ça. Je vais y penser.
Ouais, c'est une mathématique. En tout cas, continue.
Donc, des films, des moyens, des cours de toutes sortes. Et sinon, jusqu'au 12 mars, le festival Massimadi, qui met à l'honneur les films et les arts LGBTQ+, afro, permet notamment de regarder 14 documentaires en ligne. Donc, le festival Massimadi. Donc, plein de suggestions de films de toutes sortes avec des sujets intéressants. Donc, c'était mon agenda de la semaine, Simon.
Ben oui, tout ça là, très intéressant. Merci, Mathieu. C'est déjà presque tout. Donc, on se retrouve dans une petite minute pour le mot de la fin des apatrides anonymes. C'est déjà l'heure de vous dire au revoir, chers auditeurs, auditrices. On a-tu le temps pour deux mini nouvelles pour la route?
Oui, bien sûr.
Oui, vas-y, Simon.
Bon, je vais y aller. Une minute du patrimoine. Et oui, les minutes du patrimoine, ça existe encore. Ça fait pas partie du patrimoine. Il y en a une nouvelle sur Oscar Peterson, icône mondiale du jazz, icône de Montréal, de la petite Bourgogne. Ça vient de sortir dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs qui touche à sa fin. Vous pouvez voir ça en ligne. Sinon, ça vient d'être annoncé, la ville de Québec, en réponse à une suggestion de Webster, va inaugurer en mai le tout premier monument commémoratif de l'héritage afro de la ville de Québec. Il s'agit d'une plaque en l'honneur d'Olivier Lejeune, premier esclave et premier résident africain en Nouvelle-France. La plaque va être installée dans la cour du séminaire de Québec, c'est dans le Vieux-Québec. Mathieu, Marie-Ève, merci beaucoup.
Hey Simon, merci de ton animation très dynamique, très fouillée.
Une plaque, c'est un peu genre pour le premier monument, il aurait pu viser un petit peu plus dans la cour d'un séminaire en plus.
J'ai une information de plus, c'est qu'ils ont dit que la plaque était aussi grosse et aussi grande et à la même place, sauf l'autre côté de la clôture, de celle de Monseigneur de François de Laval qui a fondé le séminaire de Québec.
C'est comme une symétrie, mais j'avoue, Marie-Ève, espérons que ce ne soit qu'un début.
Ouais.
Puis ce serait fun de voir un gros général noir à cheval en tenue de combat.
Mais Dessalines!
Ouais. Mais disons que les noms de rue, ça va être plus significatif éventuellement, c'est sûr.
Ouais. Puis quand même, on ne le voit pas trop dans nos livres d'histoire, mais il y a beaucoup d'Afro-Américains dans notre histoire qui sont occultés, puis c'est le temps de les remettre en lumière. Donc, Mathieu, Marie-Ève, merci beaucoup.
Oui, merci Simon pour ton animation merveilleuse.
Merci pour tout le contenu que vous nous avez présenté, c'était super intéressant. Je vous laisse nos coordonnées. Évidemment, notre page dans choc.ca pour écouter nos balados et découvrir plein de musique et d'autres super bonnes émissions sur choc.ca. Notre site web apatridesanonymes.info. Les apatrides, on a aussi une page, Mathieu?
Une page FB?
Oui.
Oui, voilà.
Et un courriel apatridesanonymes@resist.ca. On va se tester en musique avec un nouveau groupe prog jazz psychédélique. On va dédier la chanson à Roger.
Roger, oui.
Prog jazz psychédélique de Mexico, Rostro del Sol, la pièce Cynical Mind. C'est sorti en septembre 2020. Marie-Ève Mathieu, merci encore et bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute. Restez sur les ondes de choc.ca et prenez soin de vous.
À dans deux semaines.